Henry James. Un portrait de femme. Chapitre 52. Il y avait un train ce soir-là pour Turin et Paris, et après que la comtesse l'eut quitté, Isabelle tint un conciliabule rapide et décisif avec sa femme de chambre qui était discrète, active et dévouée. Après quoi, elle n'eut plus qu'une idée en dehors de son voyage. Il lui fallait voir penser. C'était une inéluctable obligation. Elle ne s'était pas encore rendue au couvent, Osmonde lui ayant laissé entendre qu'il était trop tôt pour commencer ses visites. À 5 heures, elle descendit de voiture devant une haute porte, dans une rue étroite du quartier de la Piazza Navona, et fut reçue par la tourière du couvent, brave femme à l'aimable sourire. Isabelle connaissait déjà la maison pour être venue y voir les sœurs avec pensée. Elle savait qu'elles étaient bienveillantes, que les chambres étaient vastes et gaies, et que le jardin largement utilisé offrait du soleil en hiver et de l'ombre au printemps. Mais elle n'aimait guère l'institution, qui l'offusquait et l'effrayait un peu, et pour rien au monde elle n'y eut passé une nuit. Ce jour-là, elle y trouva plus que jamais une impression de prison décente, car il était impossible de prétendre que Pensée pût en sortir. Cette innocente créature venait de lui être présentée sous un jour nouveau et cru, mais l'effet secondaire de cette révélation l'incitait mieux encore à lui tendre la main. La tourière l'introduisit dans le parloir du couvent et s'en fut annoncée une visite pour la chère petite demoiselle. Le parloir était une pièce vaste et froide, avec des meubles d'aspect neuf, un grand poêle brillant de porcelaine blanche sans feu, des fleurs de cire sous verre et, au mur, une série de gravures de sujets religieux. Lors d'une précédente visite, Isabelle avait cru se trouver à Philadelphie plutôt qu'à Rome, mais ce jour-là elle songea, sans autre réflexion, que la pièce paraissait très vide et très muette. Au bout de 5 à 6 minutes, la tourière réapparut pour introduire une seconde personne. Isabelle se leva, s'attendant à voir une des dames de la confrérie, mais, à son extrême surprise, se trouva en présence de Madame Merle. L'effet de cette rencontre fut étrange, car Madame Merle lui était déjà si présente à l'esprit que son apparition matérielle lui semblait tout à coup, et de façon un peu terrifiante, donner mouvement et vie à une image peinte. Isabelle n'avait cessé depuis des heures de penser à sa fausseté, à son audace, à son habileté, à ses souffrances probables, et ses sombres visions parurent s'illuminer d'un éclat soudain quand la dame en personne pénétra dans la pièce. Le fait même de s'y trouver prenait un caractère accablant, le caractère de ses lettres, de ses reliques profanées, de ces objets sinistres qu'on produit au prétoire. Isabelle se sentit défaillir. Si elle avait dû parler aussitôt, elle en eût été incapable. Cette nécessité ne s'imposait heureusement pas. Et, en fait, il lui semblait qu'elle n'avait absolument rien à dire à Madame Merle. Les relations avec cette femme ne comportaient d'ailleurs jamais d'obligations absolues. Elle avait une façon d'être qui excusait à l'avance les manquements des autres autant que les siens propres. Ce jour-là, cependant, elle observait une attitude exceptionnelle. Elle entra lentement, derrière la tourière, et Isabelle comprit tout de suite qu'elle ne pouvait tabler sur ses ressources habituelles. Pour Madame Merle aussi, il s'agissait d'un événement unique, et elle était décidée à s'en tirer selon les lumières du moment. Cette conviction lui prêtait une gravité particulière. Elle n'affecta même pas de sourire, et bien qu'Isabelle sentît qu'elle jouait plus que jamais un rôle, l'étonnante femme lui parut n'avoir jamais été aussi naturelle. Elle considéra Isabelle de la tête aux pieds, sans morgue ni provocation, plutôt avec une douceur froide, et sans le moindre souvenir apparent de leur dernière entrevue. On eût dit qu'elle voulait établir une démarcation. Elle s'était laissée emporter cette fois-là et se trouvait apaisée maintenant. « Vous pouvez nous laisser seuls, » dit-elle à la sœur. « Dans 5 minutes, Madame sonnera. » Puis elle se tourna vers Isabelle qui, après avoir remarqué ce que je viens de rapporter, détournait les yeux et laissait errer ses regards aussi loin que le permettaient les limites de la pièce. Elle eût voulu ne jamais voir Madame Merle. « Vous êtes surprise de me rencontrer ici, » fit celle-ci, « et je crains que vous n'en soyez pas très contente. » Vous ne découvrez pas de raison à ma venue qui vous fait l'effet d'avoir voulu devancer la vôtre. J'avoue que c'est une sorte d'indiscrétion de ma part, j'aurais dû vous demander votre permission. » Il n'y avait dans ses paroles aucun mouvement d'ironie oblique, elles étaient prononcées avec douceur et simplicité. Mais, lancée sur son océan de stupeur et de peine, Isabelle n'aurait su discerner quelle intention les dictait. « Je ne suis d'ailleurs pas restée longtemps, » continuait Madame Merle, « pas longtemps avec pensée, j'entends. « Je suis venue la voir parce que j'ai songé cet après-midi qu'elle devait se trouver un peu seule, et peut-être même un peu triste. Cette maison convient sans doute parfaitement aux jeunes filles. Je ne pourrais le dire, ne sachant pas grand-chose des jeunes filles, mais en tout cas, elle est un peu maussade. Alors je suis venue, à tout hasard. Je savais que, bien entendu, vous deviez venir, et son père aussi, mais on ne m'avait pas dit que toute autre visite fût interdite. Cette brave Madame Catherine m'a d'ailleurs fait aucune objection à la mienne. J'ai passé 20 minutes avec Pensée, qui a une charmante petite chambre, sans rien de monacale, avec un piano et des fleurs. Elle l'a délicieusement arrangée, avec son goût habituel. Évidemment, tout cela ne me regarde pas, mais je suis soulagée de l'avoir vue. On lui concède même une femme de chambre en cas de besoin. Mais elle n'a naturellement aucune occasion de faire de la toilette. Elle est charmante dans sa petite robe noire. En la quittant, je suis allée chez Madame Catherine, qui a une très jolie chambre, elle aussi. Je vous assure que je ne trouve rien de monastique à ses bonnes sœurs. Madame Catherine possède la plus coquette des tables de toilette, avec un objet qui ressemble furieusement à un flacon d'eau de Cologne. Elle parle avec tendresse de Pensée, et m'a dit combien elles sont toutes heureuses de l'avoir parmi elles. C'est une petite sainte du ciel et un modèle pour les plus vieilles d'entre elles. Au moment où je quittais Madame Catherine, la tourière est venue annoncer une dame pour la signorina. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de vous, et j'ai prié la bonne sœur de me laisser vous recevoir à sa place. Elle a fortement hésité, je dois le dire, et a déclaré qu'il était de son devoir d'avertir la mère supérieure, car il était d'extrême importance de vous traiter avec respect. Je lui ai signifié de laisser la mère supérieure tranquille, et lui ai demandé comment elle supposait que j'allais vous traiter. Ainsi poursuivait Madame Merle, avec l'aisance d'une femme dont la maîtrise s'est longtemps exercée dans l'art de la conversation. Il y avait pourtant dans ses paroles des phases et des nuances dont aucune n'échappait aux oreilles d'Isabelle, bien que ses yeux évitassent le visage de son ancienne amie. Elle n'en avait pas encore dit bien long, quand Isabelle décela une fêlure soudaine de sa voix, une hésitation de son débit, qui représentait à elle seule un drame complet. Cette modulation subtile soulignait une découverte redoutable, la perception d'une attitude entièrement nouvelle chez son interlocutrice. En une fraction de seconde, Madame Merle avait deviné que tout était fini entre elles, et en une autre fraction, la raison de cette rupture. La femme qui se tenait devant elle n'était plus celle qu'elle avait connue jusque-là, mais une personne très différente, une femme en possession de son secret. La découverte était redoutable, je le répète, et du moment où elle la fit, la plus accomplie des femmes balbutia et perdit courage. Un moment seulement. Le courant de ses manières parfaites se remit à couler avec sa douceur habituelle jusqu'à la fin de l'entrevue. C'était d'ailleurs l'espoir de cette fin prochaine qui permit cet exploit. Madame Merle venait de recevoir une blessure qui la faisait trembler, et il lui fallait toute la vigueur de sa volonté pour réprimer son agitation. Le salut consistait pour elle à ne se point trahir. Elle y réussit, sans pouvoir cependant commander à sa voix, dont le son nouveau la surprit lorsqu'elle s'entendit prononcer des paroles machinales. La marée de sa confiance se retirait, et elle put juste à temps entrer au port, non sans gratter légèrement le fond. Isabelle distinguait aussi nettement tout ceci que la réflexion d'une grande glace claire. La minute aurait pu être mémorable pour elle, car elle en aurait pu faire une minute de triomphe. Que Madame Merle eût perdu son aplomb et vit devant elle le fantôme du scandale. Cela en soi seul était une revanche, cela représentait presque la promesse de jours plus heureux. Et pendant un moment durant lequel elle se tenait le dos à demi tourné devant la fenêtre, comme pour regarder au dehors, Isabelle jouit de cette certitude. De l'autre côté de la fenêtre donnait le jardin du couvent, mais ce n'était pas lui qu'elle voyait avec ses plantes fleuries sous l'après-midi vibrant. Elle voyait, à la lumière crue de cette révélation qui s'était intégrée déjà à son expérience, et à laquelle la fragilité même du vaisseau dans lequel on la lui avait offerte donnait seule une valeur intrinsèque, qu'elle avait été un instrument désigné, aussi commode et aussi inconscient qu'un outil de fer et de bois. Toute l'amertume de cette constatation lui remonta au cœur. C'était comme si elle eût senti sur ses lèvres le goût du déshonneur. Il y eut un moment où, si elle s'était retournée pour parler, ses paroles auraient sifflé comme une lanière de fouet. Mais elle ferma les yeux, et la vision hideuse s'évanouit. Ce qui restait, c'était la femme la plus intelligente du monde, debout à quelques pieds d'elle, et aussi déroutée que la plus médiocre. La seule vengeance d'Isabelle fut de rester silencieuse, de laisser Madame Merle dans cette situation sans précédent. Elle fit durer cette pause, qui dut paraître longue à cette femme, dont le geste pour s'asseoir enfin fut en soi un aveu de défaite. Alors Isabelle, abaissant lentement les yeux, la regarda. Madame Merle était très pâle, et dévorait du regard le visage d'Isabelle. Elle pouvait y voir ce qu'elle voulait, le moment critique était passé, Isabelle ne formulerait jamais accusation ni reproche, peut-être pour ne point vouloir lui fournir l'occasion de se défendre. « Je suis venue dire adieu à Pensée, » fit enfin notre héroïne. « Je pars ce soir pour l'Angleterre. »« Ce soir pour l'Angleterre ?» répéta Madame Merle, les yeux levés vers elle. « Je vais à Gardencourt. Ralph Touchett est mourant. »« Ah, comme vous allez souffrir de cette mort !» s'écria Madame Merle, à qui la chance d'exprimer sa sympathie rendait ses esprits. « Vous partez seule ?»« Oui, sans mon mari. » Madame Merle émit un murmure bas et confus, une sorte de tribut à l'habituelle tristesse des choses. « Mr. Touchett ne m'a jamais aimé, mais je regrette sa mort. Pensez-vous voir sa mère ?»« Oui, elle est de retour d'Amérique. »« Elle m'a témoigné beaucoup de bonté autrefois, puis elle a changé. Elle n'est pas la seule, » commenta Madame Merle avec un noble et paisible émoi. Elle se tut un moment puis reprit. « Alors vous allez revoir notre bon vieux Gardencourt ?»«
Ce ne sera pas un grand plaisir, » répondit Isabelle.
« Naturellement. » dans votre peine. Mais c'est, au total, de toutes les habitations que je connaisse, et j'en connais beaucoup, celle où j'aurais préféré vivre. Si je ne me risque pas à adresser un message au propriétaire, j'aimerais que vous disiez mon bon souvenir à la maison.
Isabelle se détourna. Il faut que j'aille voir Pensée, je n'ai pas beaucoup de temps.
Tandis qu'elle cherchait la sortie, la porte s'ouvrit devant une des sœurs, qui s'avança avec un discret sourire, en frottant doucement sous les longues manches flottantes une paire de mains blanches et potelées. Isabelle reconnut Madame Catherine, dont elle avait déjà fait la connaissance, et la pria de la faire conduire sans retard près de Miss Osmond. Madame Catherine parut redoubler de discrétion pour annoncer avec le plus suave des sourires « Ce sera bon pour elle de vous voir. Je vais vous conduire moi-même. » Puis elle jeta vers Madame Merle un coup d'œil aimable et circonspect.
« Voulez-vous me laisser rester un instant ?» demanda cette dame. « On est si bien chez vous. »«
Vous pouvez y rester toujours, si le cœur vous en dit, » répondit la bonne sœur avec un sourire entendu. Elle guida Isabelle au long des nombreux corridors et d'un grand escalier. Ses dégagements étaient massifs et nus, clairs et nets, comme ceux des grandes prisons, se dit Isabelle. Madame Catherine ouvrit doucement la porte de Pensée et introduisit la visiteuse, puis se tint sur le seuil, les mains croisées et souriant, tandis que toutes deux s'embrassaient.
« Elle est heureuse de vous voir, » répéta-t-elle. « Cela va lui faire du bien. »
Et elle avança soigneusement la meilleure chaise pour Isabelle. Elle ne s'assit point elle-même et parut prête à se retirer.
« Quelle mine lui trouvez-vous ? » demanda-t-elle à Isabelle.
« Elle me paraît un peu pâle. »«
C'est la joie de vous voir. Elle est très heureuse. Elle éclaire la maison, » déclara la bonne sœur.
Pensée portait, comme l'avait dit Madame Merle, une petite robe noire. C'était peut-être cette robe qui accentuait sa pâleur.
« On est très bon pour moi, on pense à tout !» s'écria-t-elle, avec son habituelle bonne grâce.
« Nous pensons toujours à vous, car vous nous êtes très précieuse !» fit observer Madame Catherine, avec l'accent d'une femme à qui la bienveillance est coutumière, et pour qui l'idée de devoir commande les soins les plus méticuleux. Sa phrase n'en tomba pas moins avec un poids de plomb sur les oreilles d'Isabelle, tant elle semblait représenter le renoncement à toute personnalité et l'autorité de l'Église. Lorsque Madame Catherine se fut retirée, Pensée s'agenouilla et cacha sa tête sur les genoux de sa belle-mère. Elle demeura quelques moments dans cette posture, laissant Isabelle lui caresser doucement les cheveux. Puis elle se leva, en détournant ses yeux pour les porter tout autour de la pièce.
« Ne trouvez-vous pas que j'ai bien arrangé ma chambre ? J'ai tout ce que j'avais à la maison. »«
C'est très joli, et vous êtes très bien ici, » balbutia Isabelle, sans trop savoir que dire. « D'une part, elle ne voulait pas laisser croire à l'enfant qu'elle était venue s'apitoyer sur son sort, et de l'autre, elle eût tenu pour une ironie sombre d'affecter de se réjouir avec elle. Aussi se contenta-t-elle d'ajouter, après un moment de silence, « Je suis venue vous dire adieu, je pars pour l'Angleterre. » Le pâle visage de Pensée s'empourpra.
« Pour l'Angleterre ? Pour n'en plus revenir ?
J'ignore quand je reviendrai.
« Oh, quelle peine pour moi !» soupira douloureusement Pensée.
Elle semblait s'interdire tout droit de critique, mais son accent exprimait un monde de déception.
« Mon cousin, Mr. Touchett, est au plus mal. Il va probablement mourir et je veux le revoir, » expliqua Isabelle.
« Ah oui, vous m'aviez dit que l'on attendait sa mort. Il faut évidemment que vous partiez. Papa va-t-il vous accompagner ?»«
Non, je pars seule. »
L'enfant ne répondit rien tout d'abord. Isabelle s'était souvent demandé ce qu'elle pensait des rapports apparents de son père et de sa belle-mère, mais elle n'avait jamais laissé entendre par un geste ou une allusion
qu'elle ne crut pas à leur parfaite entente. Elle faisait évidemment ses réflexions et devait être convaincue qu'il existait une intimité plus profonde entre certains maris et femmes. Mais la jeune fille n'était pas indiscrète, même en pensée, et ce serait aussi peu risqué à juger sa douce belle-mère qu'à critiquer son père magnifique. Sans doute à ce moment-là, son cœur cessa-t-il un moment de battre, comme il l'aurait fait si elle avait vu deux dessins du grand tableau de la chapelle tourner leurs têtes peintes et les hocher l'un devant l'autre. Mais en pareil cas, elle n'aurait jamais, pour la solennité de la chose, révélé le redoutable mystère, car elle renonçait à pénétrer les secrets des vies plus hautes que la sienne. « Vous serez bien loin, » fit-elle simplement. « Oui, je serai loin, mais cela ne fera pas grande différence, » expliqua Isabelle, « puisque tant que vous êtes ici, on ne peut pas dire que je sois près de vous. » « C'est vrai, mais vous pouvez venir me voir, bien que cela ne vous arrive pas souvent. » « Je ne suis pas venue parce que votre père l'avait défendu. Et aujourd'hui, je n'ai rien apporté. Je n'ai pas de quoi vous distraire. »« Je ne cherche pas à me distraire. Ce n'est pas ce que veut papa. » « Alors, il n'importe guère que je sois à Rome ou en Angleterre. »« Vous n'êtes pas heureuse, Mrs. Osmond, » dit Pensée. « Pas très heureuse, mais cela ne fait rien. »« C'est ce que je me dis. Qu'importe, mais je voudrais sortir d'ici. »« Je le voudrais aussi pour vous. »« Ne me laissez pas ici, » reprit doucement Pensée. » Isabelle resta une minute sans rien dire. Son cœur battait très vite. « Voulez-vous venir avec moi tout de suite ?» proposa-t-elle. Pensée la regarda d'un air suppliant. « Papa l'a-t-il recommandé ?»« Non, c'est moi qui vous l'offre. »« Alors je crois que mieux vaut attendre. Papa ne vous a chargé d'aucun message pour moi ?»« Je ne crois pas qu'il ait été au courant de ma venue. »« Il pense que je ne suis pas encore restée assez longtemps ici, » dit Pensée. « Mais c'est bien assez long. Les sœurs sont très bonnes pour moi, et les petites filles viennent me voir. Il y en a de toutes petites, des enfants délicieuses. Et ma chambre, vous la voyez vous-même, tout cela est charmant. Mais cela suffit. » « Papa voulait que je réfléchisse un peu, et j'ai beaucoup réfléchi. »« Et quel a été le résultat de vos réflexions ?»« Que je ne devais jamais rien faire qui déplaise à mon père. »« Vous le saviez déjà ?»« Oui, mais je le sais mieux maintenant. Je ferai n'importe quoi, » dit Pensée. Et soudain ses paroles firent monter à ses joues une pure et ardente rougeur. Isabelle en comprit la signification. Elle vit que la pauvre enfant était vaincue. Il était heureux que M. Édouard Rosier eût conservé ses émaux. Isabelle regarda dans les yeux de la jeune fille et comprit qu'elle demandait avant tout à être traitée avec douceur. Elle posa une main sur celle de Pensée, comme pour lui laisser entendre qu'elle ne l'estimait pas moins, car l'effondrement de la résistance de la jeune fille, pour muette et modeste qu'elle eût été, ne semblait que son hommage à la vérité des choses. Elle ne se permettait pas de juger les autres, elle s'était jugée elle-même et avait vu la vérité. Elle n'avait pas de vocation pour se battre contre des mesures concertées. Il y avait, dans la solennité de la séquestration, quelque chose qui l'accablait. Elle courbait sa jolie tête devant l'autorité et demandait seulement à l'autorité d'être miséricordieuse. Oui, il était fort bon qu'Édouard Rosier eût réservé quelques articles de sa collection. Isabelle se leva. Son temps libre se raccourcissait rapidement. « Adieu donc, je quitte Rome ce soir. » Pensée la saisit par la robe. Un changement soudain s'était produit dans son visage. « Vous avez un air étrange. Vous m'effrayez. »« Oh, je suis bien inoffensive, » dit Isabelle. « Peut-être ne voulez-vous pas revenir ?»« Peut-être. Je ne puis le dire. »« Ah, Mrs. Osmond, vous n'allez pas m'abandonner. » Isabelle vit que l'enfant avait tout deviné. « Ma chère petite, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle. « Je l'ignore, mais je suis plus heureuse quand je pense à vous. »« Vous pouvez toujours penser à moi, pas quand vous êtes si loin. »« J'ai un peu peur, » j'ai mis pensée. »« Peur de quoi ?»« De papa, un peu, et de Madame Merle. Elle est venue me voir tout à l'heure. »« Il ne faut pas dire cela, » remontra Isabelle. « Oh, je ferai tout ce qu'on voudra, seulement si vous êtes ici, cela me sera plus facile. » Isabelle réfléchit un moment. « Je ne vous abandonnerai pas, » promit-elle enfin. « Adieu, mon enfant. » Elles se tinrent un moment silencieusement embrassées comme deux sœurs, puis Pensée accompagna Isabelle jusqu'au sommet de l'escalier. « Madame Merle est venue me voir, » dit-elle en s'avançant. Et comme Isabelle ne répondait pas, elle ajouta brusquement. « Je n'aime pas Madame Merle. » Isabelle hésita, puis s'arrêta. Il ne faut jamais dire que vous n'aimez pas Madame Merle. » Pensée la regarda avec surprise, mais chez elle l'étonnement ne commandait pas la révolte. « Je ne le dirai plus, » promit-elle, avec une douceur exquise. Au sommet de l'escalier, elles durent se séparer, car la discipline douce mais nettement définie imposée à Pensée lui interdisait de descendre. Du pied de l'escalier, Isabelle vit la jeune fille se pencher sur la rampe. « Vous reviendrez ?» cria-t-elle sur un ton qu'Isabelle devait se rappeler dans la suite. « Oui, je reviendrai. » Madame Catherine vint au-devant de Mrs. Osmond et la conduisit jusqu'à la porte du parloir où elles restèrent une minute à causer. « Je n'entre pas, » dit la bonne sœur. « Madame Merle vous attend. » À ces mots, Isabelle se raidit et fut sur le point de demander si le couvent n'avait pas d'autre sortie. Mais un moment de réflexion lui fit comprendre que mieux valait ne pas montrer à la digne sœur son désir d'éviter l'autre amie de pensée. Madame Catherine lui saisit très doucement le bras et, fixant sur elle un moment ses des yeux sagaces et bienveillants, dit en français avec une sorte de familiarité « Eh bien, chère madame, qu'en pensez-vous ? » « De ma belle-fille ? Oh, ce serait trop long à vous dire. » « Nous pensons que cela suffit, » déclara nettement Madame Catherine. Puis elle poussa la porte du parloir. Madame Merle était assise dans la position où l'avait laissée Isabelle et s'absorbait si bien dans ses pensées qu'elle n'avait pas bougé un petit doigt. Quand Madame Catherine ferma la porte, elle se leva et Isabelle comprit que sa méditation n'avait pas été vaine. Elle avait retrouvé son équilibre, elle était en pleine possession de ses ressources. « J'ai voulu vous attendre, » dit-elle avec sérénité, « mais ce n'est pas pour parler de pensées. » Isabelle se demanda de quoi pouvait lui parler son ancienne amie, et malgré cette affirmation précise, répondit presque aussitôt « Madame Catherine déclare que cela suffit. » « Oui, c'est aussi ce que je pense. Je voulais vous dire encore un mot du pauvre Monsieur Tutchett. Avez-vous lieu de croire qu'il soit vraiment à bout ?»« Je n'ai reçu d'informations que par télégramme. Malheureusement, la dépêche ne fait que confirmer une probabilité. » « Je vais vous poser une question bizarre, » annonça Madame Merle. « Vous aimez beaucoup votre cousin ?» Et elle eut un sourire aussi étrange que ses paroles. « Oui, beaucoup, mais je ne vous comprends pas. » L'autre marqua un temps. « C'est un peu difficile à expliquer. Je me suis avisée d'un fait qui peut vous avoir échappé et dont je vous donne le bénéfice. Votre cousin vous a rendu un grand service. Vous ne l'avez jamais deviné ?»«
Il m'a rendu bien des services. » »«
Oui, bien que celui-là l'emporte de beaucoup sur les autres. » Il a fait de vous une femme riche. Il a fait de moi... » À la vue du succès qui s'affirmait, Madame Merle poursuivit d'un ton plus vibrant. « Il vous a octroyé ce lustre supplémentaire qui était nécessaire pour faire de vous un brillant parti. Au fond, c'est lui que vous devez remercier. » Elle s'arrêta en voyant l'expression des yeux Isabelle. « Je ne vous comprends pas. C'était la fortune de mon oncle. » « La fortune de votre oncle, oui, mais l'idée de votre cousin. » « C'est lui qui a décidé son père. Ah, ma chère, la somme était grosse. » Isabelle regardait dans le vide, et lui semblait ce jour-là vivre dans un monde zébré d'éclairs sinistres. « Je ne sais pas pourquoi vous me dites de pareilles choses. J'ignore ce que vous savez. » « Je ne sais rien que je n'ai deviné. Du moins ai-je deviné cela. » Isabelle gagna la porte, et lorsqu'elle l'eut ouverte, garda un moment la main sur le loquet, puis elle dit... Et ce fut sa seule vengeance. Je croyais que c'était vous que j'avais à remercier. » Madame Merle baissa les yeux et resta immobile, dans une sorte d'orgueilleux repentir. « Vous êtes très malheureuse, je le sais. Mais je le suis plus que vous. Oui, j'en suis persuadée. Je voudrais ne jamais vous revoir. » Madame Merle releva les yeux. « Je vais partir pour l'Amérique, » déclara-t-elle doucement, tandis que sortait Isabelle.